Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est le retour de Rayon Libre. On reprend une saison. Ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, Rayon Libre sera en direct le lundi de 14h à 14h30. Parfois, on vous le dira, l'émission sera enregistrée. Rayon Libre explore toujours le monde du vélo, le système vélo, en donnant la parole à celles ou ceux qui font du vélo, ou encore celles ou ceux qui font du vélo. D'ailleurs, souvent, quand on fait le vélo, on fait du vélo, et toujours, quand on fait du vélo, on participe forcément au mouvement à augmenter la place du vélo dans nos sociétés. Nous sommes sur Cause Commune, c'est la voie des possibles, vous nous écoutez sur 93.1 FM, sur Internet, via la DAB+, le canal 9, on a même aussi une appli compatible iOS ou Android. Envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm. Cette année, je commence encore évidemment par les remerciements. Merci à vous, auditeurs, auditrices, merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Merci aussi pour vos interactions en message privé notamment. Merci à Olivier Gréco, qui est le président de l'antenne, le directeur de l'antenne Cause Commune, parce qu'il nous renouvelle sa confiance pour une saison 4. Merci à Abel Guggenheim, fidèle, il revient pour ses chroniques, ses pas de côté, son recul, ses coups de gueule. Merci aussi à lui pour sa confiance. C'était en plein confinement, en mai 2020. Un jour, il m'appelle et il me dit à peu près en ces termes: Jérôme, j'ai envie de passer le micro pour t'occuper de Rayon Libre. En as-tu envie? Eh ben oui, Abel. Oui, c'est avec un plaisir immense que je m'occupe de la programmation de l'éditorial et de l'animation de cette émission. Pour finir, merci aussi évidemment à Baptiste Martin qui est aux manettes aujourd'hui et qui est en train d'essayer de joindre notre invité du jour parce que l'émission de juste avant avec Sandrine Rousseau, elle a un tout petit peu débordé, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors aujourd'hui, l'invité du jour, il remonte ses manches, il n'a pas peur de se salir les mains, il est même celui qui participe à donner des lettres de noblesse à ce métier, qui aurait pu être perçu comme ingrat, mais qui est magnifique, et surtout absolument essentiel à un système vélo. Vincent Monat, qui sera au micro avec nous dans quelques instants, a co-créé l'entreprise Vélogic. Vélogic, c'est un spécialiste de la mécanique vélo, de l'entretien, il en a en quelque sorte industrialisé cette activité. Son entreprise est notamment celle qui entretient un grand nombre de vélos en libre-service, que nous voyons dans les rues dans de ville. Il a, comme nous, probablement été effaré de voir le livreur Oura dans Paris croire que sa camionnette était un tank et rouler sur une dizaine de vélos en station qui n'avaient rien demandé. Des vélos qui vont probablement finir à la déchetterie ou peut-être, si ces mécanos sont des magiciens, être réparés et remis en circulation. Il nous le dira. La vidéo, en tout cas, est visible en ligne. C'est assez effarant. C'est sur le site de Cause Commune. Et nous avions envie de l'avoir au micro, Vincent, pour évoquer avec lui ces deux sujets. Vélogic, évidemment, cette notion de service indispensable, comment réussir à maintenir des flottes de vélos qui sont aussi maltraitées par les différents usagers, et puis aussi les membres du bureau de cette toute jeune association lancée au cœur de l'été qui se reconnaît derrière l'acronyme AAVP, Association des acteurs du vélo public. Donc c'est parlé, donnons la parole à Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Eh bien, on vous a attrapé au vol, j'ai l'impression, Vincent. Merci. Ouais. Merci de nous consacrer une demi-heure de votre temps. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu et écouté cette introduction, mais peut-être pour les auditeurs, en tout cas, vous êtes dans votre bureau à Lyon et moi, je suis en studio. Et Vincent, avant d'évoquer la AVP, j'aimerais que vous nous présentiez en quelques mots quand même l'aventure Vélogic. À quel moment et quel constat vous faites? Constat qui vous amène à vous dire, allez, il faut qu'on crée un truc qui s'appelle Vélogic, qui va faire de la maintenance de flotte de vélos.
Ouais, alors merci en tout cas pour l'invitation. Donc effectivement, Vélogic est né à une période où on parlait pas autant de vélo, hein. C'est né dans les têtes en 2008, ouais. Pour information, et ça prend naissance le 24 décembre 2008 comme un cadeau de Noël. Alors à l'époque, on part un petit peu la fleur au fusil, on se dit que le vélo électrique est l'avenir. Ouais. 2008, faut replacer le contexte, hein. 2008, le vélo électrique est pas du tout dans la place qu'il occupe aujourd'hui. Et on y croit, on se dit que les déplacements du quotidien vont bouger. Ouais. Et face à ça, il y a peu ou pas d'offres. Faut se rappeler qu'aussi en 2008, l'offre de vélo libre service, voire la location longue durée, c'est très sporadique. Ça existe dans quelques villes, quelques grandes métropoles, mais c'est pas une utilisation comme on la connaît aujourd'hui. Ouais. Et on part donc se dire qu'on va les convaincre des collectivités et des entreprises. C'est vraiment là-dessus où ça part au départ. pour dire on va vous équiper de flottes de vélos électriques et vous allez voir, croyez-nous, vos salariés, vos agents, vos administrés vont aimer ça. Et pour vous aider et vous accompagner sur ce sujet-là, ben, on va vous fournir, on va vous faire de la communication, on va vous faire de la formation, on va vous faire de la maintenance, on va vous faire le suivi, bref, on va essayer de vous proposer tout clé en main.
Ouais.
Donc on est à une époque où aujourd'hui l'activité est beaucoup plus segmentée en 2022. Et à cette époque-là, il fallait toucher un peu à tout. Donc on vendait des vélos le matin, on prenait nos chiffons et nos outils l'après-midi et on se baladait déjà en vélo cargo avec une remorque pour assurer ces maintenances-là.
Et ça, c'était en 2008.
Ça, c'était en 2008-2009, ouais. Et donc, on est parti avec cette idée un petit peu folle. Pour replacer les choses dans leur contexte, c'est né de deux associés au tout début, Franck Brény et Gwendal Karabeuf. Gwendal a volé sous d'autres tuniques, j'allais dire, puisqu'il est maintenant chez Indigo Conseil.
Oui.
Et Franck est président aujourd'hui de la société. Et moi, je suis rentré courant 2010, donc quasiment à la première
ans.
Année.
Oui, oui.
Et je suis rentré en tant que technicien.
D'accord.
J'ai tout plaqué de ma vie d'avant et je suis rentré en tant que technicien.
Donc vous êtes en train de m'expliquer, vous, en 2010, vous faites déjà une reconversion professionnelle dans l'univers du vélo. Vous étiez peut-être pas l'un des premiers, mais vous êtes rentré, si je puis dire, par la petite porte.
Je suis rentré par la petite porte. Le métier de technicien itinérant en plus à l'époque et de traverser des grandes lignes droites l'hiver ou l'été quand il fait bien chaud déjà à l'époque.
Ouais.
Et de connaître effectivement ce métier où il fallait un petit peu tout faire. Et après, j'ai grandi avec Vélogique, j'ai eu l'occasion grâce à Franck de m'associer. Donc maintenant, on est associé sur l'entreprise.
Et vous êtes directeur général et en charge du développement, hein, c'est ça aujourd'hui?
Exactement.
Mais alors...
Donc toute la partie stratégie et développement.
On va faire un énorme saut dans l'histoire parce qu'aujourd'hui on est en 2022. Est-ce que en 2008-2010, à quel moment Vélogique devient rentable? Parce que c'est là, à mon sens, c'est l'un des gros enjeux aujourd'hui dans le monde de la mécanique, c'est de réussir à valoriser ce métier et à expliquer qu'il y a une vraie valeur, une vraie expertise, un vrai savoir-faire et qui fait que le client doit payer pour ça.
Ouais, alors en fait, tout début, les toutes premières années, comme toute entreprise, on se casse les dents sur pas mal de choses, mais très rapidement, on a des clients qui nous font confiance.
Oui.
Et à l'époque, comme je l'expliquais auparavant, on allait de la vente jusqu'au service.
Oui.
Donc on arrive très rapidement en 2012, on passe à l'année 2010-2011. Effectivement à trouver un équilibre et on arrive à fin 2011 début 2012 à une rentabilité et après une croissance régulière.
Ouais.
Et ce qui se passe c'est qu'en 2018-2019 juste avant le Covid en fait,
ouais,
on prend la décision de une décision stratégique assez profonde de se dire ben le marché du vélo se segmente.
Ouais.
Il y a des vendeurs de vélos, il y a des loueurs et il y a des mainteneurs et
ouais,
on place Vélogique au centre de l'échiquier de la maintenance de vélo. Et là, à ce moment-là, ben, on vient bousculer tout notre business model. Forcément, les rentabilités sont différentes.
Mmh.
Et là, on a la nécessité de travailler sur du volume pour atteindre cette rentabilité.
Oui.
Et opportunité et puis relation par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant. Nos anciens... concurrents deviennent nos clients,
ouais,
à savoir des Keolis, des Transdev, des
ouais,
RATP, ainsi de suite, deviennent nos clients. Et donc, on récupère, on a la chance de pouvoir...
Est-ce que c'est eux, Keolis ou Transdev ou ces gens-là, qui à un moment donné vous disent mais vous avez un savoir-faire sur la mécanique, on a besoin de vous là-dedans, allez-y, on vous accompagne? Ou est-ce que c'est à l'inverse, vous qui... Comment ça se passe, le shifting ou le changement de stratégie?
C'est nous qui faisons la bascule.
Ouais.
En fait, pour être totalement transparent, on bosse et je présente à Franck à l'époque une dizaine d'alternatives pour
ouais,
la bascule Vélogique. Et on se dit, en fait, où est-ce qu'il y a l'épine dans le pied de tout le monde, grosso modo,
que
personne ne veut faire, et c'est la maintenance.
Ouais.
Où est-ce que c'est rentable? Ben, c'est pas la maintenance, mais du coup, comment on le rend rentable? Aujourd'hui, c'est en travaillant sur une professionnalisation, donc un certain nombre de process, d'automatisation, de professionnalisation, de digitalisation, ça c'est un gros pas, et puis sur la volumétrie. Donc quand on va signer un marché avec Smooth & Go sur une partie de Vélib, quand on remporte un marché pour être en charge là maintenant sur Véligo Location, on parle de volume de déjà de 30 000 vélos potentiellement. Donc là-dessus, face à des process qui s'industrialisent, c'est pour ça qu'on on parle d'industrialisation de la maintenance chez nous aussi, sur un corps de métier, eh bien, on arrive à cette forme de rentabilité.
D'accord. Et aujourd'hui, Vélogique, c'est quatre activités, si je suis bien informé. Il y a donc la maintenance de vélos en libre-service, les ateliers en centre-ville, vous en ouvrez une quinzaine ou une vingtaine là en 2022-2023, centre de formation pour créer votre main-d'œuvre, former vos mécanos, et ensuite vous êtes fournisseur de logiciels dédiés aux ateliers et à la maintenance, c'est ça, pour la gestion rendez-vous, les diagnostics, gestion des stocks, etc.
Exactement. Donc ce qu'on appelle Vélogique Management et maintenance, c'est les gros volumes, les grosses flottes, collectivités, entreprises, donc là on parle de centaines, de milliers de vélos en gestion, et on opère en technicentre. Donc ça, là, on a vraiment une forme d'industrialisation. Alors, c'est un gros mot dans le monde du vélo, industrialisation.
Oui.
Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Parce que lorsqu'on a à Paris, dans nos ateliers, par exemple, je prends celui d'Ivry, on a entre 250 et 350 vélos jour à sortir en maintenance, on est obligé de réfléchir à des process qui se rapprochent d'une certaine forme d'industrialisation.
Alors, on va revenir justement à ce point-là, puis après la pause musicale, on parlera de cette association, l'AAVP, dont vous êtes le secrétaire, l'association des acteurs du vélo public. Juste là, on fait une petite pause parce que c'est l'agenda et la pause musicale. Alors, l'agenda, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 17 septembre, c'est dans deux semaines, il y a la bourse au vélo qui est organisée par la mairie du 17e arrondissement avec MDB. Ce sera rue Buffet. Vous aurez les infos en ligne sur le site cause-commune.fm. Je vous propose un peu de lecture aussi. En danseuse, c'est un livre qui est publié chez Amphora, qui est écrit par Vicky Carbonneau, l'une des fondatrices des Girls on Wheels. On la recevra bientôt ici. Je sais que les filles, c'est aussi un vrai sujet chez Vélogique, puisque Vélogique, notamment, est sponsor d'une équipe lyonnaise de femmes à vélo. Et puis, un moment aussi devant l'écran, et Arte, je vous invite à regarder cet épisode de cette émission Twist, dont l'intitulé est Un monde sans voiture. Le lien sera aussi dans la fiche de l'émission sur le site cause-commune.fm. On se retrouve dans 3 minutes 30. Vous êtes sur Cause Commune, c'est Rayon Libre. Nous sommes en compagnie de Vincent Monat, directeur général, directeur du développement et ingénierie de chez Vélogique. On revient après Wildfires, proposé par Salt, que va nous envoyer Baptiste.
Spread the love.
Là, nous voilà de retour. Vous êtes toujours sur 93.fm ou sur causecommune.fm. On attaque la deuxième partie de Rayon Libre. Au micro, toujours Vincent Monat, directeur général et directeur du développement et ingénierie chez Vélogique. Et on a coupé un peu la musique, même si elle est très belle, parce qu'on a été un peu coupé au départ. Donc autant donner un peu plus la parole à Vincent que d'écouter des jolies musiques. Vincent, vous êtes toujours avec nous, j'imagine ?
Ouais.
Alors... je vous coupais la parole juste avant, vous nous disiez l'industrialisation, c'est un peu un gros mot dans le monde du vélo. Et puis j'imagine qu'aujourd'hui, c'est aussi quand même beaucoup un métier de frustration, parce que quand vous devez sortir 250 vélos par jour pour Vélib, comment on fait pour concilier qualité et quantité ?
Aujourd'hui, justement, une des forces de Vélib, c'est de pas se dire on va faire du tout venant en basse qualité, c'est de se dire le vélo, ou en tout cas quel que soit l'usager, il mérite de rouler sur quelque chose ou sur un vélo qui est bien entretenu.
Ouais.
C'est une question de sécurité, c'est une question de fiabilité et c'est une question d'adhésion. Aujourd'hui, oui. je suis assez convaincu que on a touché les personnes qui étaient convaincues du vélo, certes, elles ont leur propre vélo d'ailleurs, et on a touché ceux qui étaient déjà sensibles au déplacement en vélo.
Ouais.
Et donc, il y a la majorité de la population, on va pas se mentir, qui a encore accès à ces services vélo, qui ne l'utilisent pas, et donc, on a le droit à une seule chance. Une seule, ça veut dire que le vélo doit être de bonne qualité, ça veut dire que le vélo doit répondre aux attentes du client qui va essayer ce vélo-là, et donc, un des premiers sujets, c'est l'aspect et la maintenance.
Ouais.
Et donc là-dessus, on a fait le choix, en tout cas dans notre positionnement, d'assurer un niveau de qualité avec justement un contrôle qualité, avec un suivi digitalisé de notre maintenance qui vient apporter cette action d'industrialisation. C'est-à-dire que tous nos vélos ont aujourd'hui une carte vitale, ce qu'on appelle la carte vitale chez nous.
Ouais.
Et on arrive à suivre l'historique du vélo, changer les pièces quand il le faut, anticiper avec de la maintenance préventive et prédictive,
ouais.
C'est là-dessus où on essaye de faire la différence.
Mais alors ça veut dire par exemple, quand on... Je prends l'exemple de l'utilisateur du Vélib, puisqu'on est parisien et qu'on est à Paris, nous ici de notre côté, mais l'utilisateur du Vélib, quand il se retrouve avec un Vélib qui a les freins qui chantent et qui font de la musique, c'est parce qu'il a été maltraité entre le moment où il est sorti de l'atelier et le moment où le cycliste se pose dessus.
Il y a de tout. Aujourd'hui, je peux pas vous dire on sort que des Rolls.
Oui.
Ça serait mentir. Et ça serait c'est pas juste par rapport aussi à la volumétrie d'activité et au budget qui est réalisé par rapport à ça.
Ouais.
Parce que ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que la partie maintenance, aujourd'hui, on considère qu'on achète les vélos, qu'on a fait le tout. Une collectivité va dire j'ai acheté les vélos, maintenant j'ai fait le plus gros du taf.
Ouais.
Et la réalité, c'est que le travail commence maintenant.
Ouais.
De communiquer, de faire en sorte que ça...
Et on le voit, on le voit aussi, quelqu'un qui passe de la voiture au vélo, il ne se rend pas compte que son vélo, il faut qu'il aille l'entretenir tous les 1000 ou 1500 km. Il n'a pas du tout ce réflexe-là sur sa voiture.
Exactement. Ouais. Donc quand on va expliquer à quelqu'un qu'il faut changer sa chaîne, il faut vérifier sa chaîne, elle marche, elle tourne toujours. Et pour autant... elle est usée, donc ça use la transmission et c'est un coût après l'entretien qui est beaucoup plus important parce qu'il faut changer l'ensemble de la transmission. Donc c'est tous ces éléments-là sur lesquels on travaille. Et pour répondre clairement à la question du Vélib, aujourd'hui, on ne fait pas 100% de la maintenance de tous les Vélib.
Dites-moi que c'est les vélos qui sont maintenus par les autres.
Non, mais au-delà de ça, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de pouvoir changer à systématiquement le système de freinage. Donc ça veut dire qu'on remet à la route quelque chose qui est fiable et sécurisé. Mais par contre, effectivement, ça peut faire parfois un peu de bruit ou ça peut faire un peu de ci, un peu de ça. Mais ce dont on s'assure, c'est que la qualité... et la sécurité en tout cas du vélo soit respectée. C'est le plus important.
Et pour reprendre vos termes, vous parliez aussi d'adhésion et presque envie de dire si l'expérience n'est pas parfaite, et tant pis, à un moment donné, il y a aussi des logiques économiques. C'est ça ?
Exactement. Ouais. Aujourd'hui, en fait, dans un budget d'un appel d'offres, en tout cas d'une collectivité, je comprends que c'est pas simple de se dire on veut mettre tous les moyens quoi qu'il en coûte. On n'est pas dans le quoi qu'il en coûte dans le vélo, croyez-moi. Et pour le coup, ça c'est des choses qui vont s'améliorer. Et la technicité des vélos, notamment sur les vélos électriques, demande encore un peu plus de compétences.
Ouais.
Et ça fait le lien avec le campus qu'on a ouvert aussi dernièrement.
Alors justement, il nous reste quelques minutes quand même. Je voulais quand même aussi parler de l'AAVP, l'Association des acteurs du vélo public. Quel est l'objet de cette association ?
Bah, l'objet de cette association, bah, c'est le constat assez simple, hein, c'est qu'entre 2015 et 2021-2022, il y a eu une augmentation à peu près de 85-90% des vélos en libre-service, en location longue durée. Ouais. Dans les collectivités. Donc ouais. À partir de ce constat-là, on se dit bah, y a une vraie pertinence, en tout cas à mettre autour de la table les acteurs qui travaillent sur ces services-là et les demandeurs, ou en tout cas les collectivités qui ont l'envie de mettre en place ces services. Donc de mettre les fournisseurs, les opérateurs, les spécialistes du vélo public en tant que tel face aux acteurs et aux associations et collectivités qui veulent mettre en place du vélo. C'était de se dire mais comment on arrive à faire en sorte que les choix, typiquement ce que j'ai expliqué sur la maintenance, soient la bonne volumétrie, le bon rapport qualité-prix, le bon vélo, le
Mais est-ce que ce rôle-là, il ne peut pas être tenu par, ça va être une question un peu piquante, est-ce que ce rôle-là, il ne peut pas être tenu par une association comme Club des villes cyclables et marchables?
Si, mais elle est associée à la démarche. Et l'idée, c'était simplement de se dire, aujourd'hui, le Club des villes cyclables marchables, ils n'ont pas forcément les données brutes.
Oui.
Et une des révolutions dans cette association, c'est de se dire, bah, les 15, les PBSC, les Inurba, les Souvengo, les Vélogique, les Transdev, et ainsi de suite, se disent, OK, on va jouer carte sur table, et on va donner les vraies réalités des chiffres ou des productions, ou ainsi de suite, de ce qu'est le vélo aujourd'hui en 2022, et donc de comment il faut dimensionner au juste prix, au juste volume, lorsqu'on est une collectivité et qu'on attend un service de qualité.
Et est-ce que là, pareil, une autre petite question qui pique, le fait que toutes ces entreprises qui sont un peu concurrentes ou même très concurrentes les unes aux autres se mettent d'accord, il n'y a pas à un moment donné une sorte de, on se regarde en chaîne de faïence et qui va effectivement véritablement jouer le jeu de donner ces informations carte sur table?
Bah, moi, je suis un peu en position de biologique, je suis un peu, entre guillemets, tranquille dans la mesure où effectivement, si on regarde les CITIN, les BSI ou les instituts, ils vont inévitablement se... Mais après, de se dire, aujourd'hui, la volumétrie, quand on dit que 90% du nombre de vélos en libre-service a augmenté dans les 5 dernières années, ça veut dire potentiellement que le marché augmente et donc que la demande augmente. Oui. Donc la répartition de cette volumétrie-là, elle peut s'équilibrer. Alors bien sûr, tout le monde aurait à avoir un gros gâteau.
Oui, mais chacun une grosse part du gâteau. Oui.
Voilà, chacun est prêt à partager le gâteau.
Oui.
Donc c'est cette idée-là, en fait, dans cette construction-là. Et c'est surtout, aujourd'hui, on rentre dans un système de durabilité, de soutenabilité, encore plus, on l'a vu cet été, ainsi de suite. Et donc, on ne veut plus du vélo pas cher, et qui s'utilise au bout de deux fois et qui est prêt à jeter parce qu'il n'est même pas maintenable.
Oui.
On a des cages de pédalier, enfin on a des pédaliers en plastique, enfin bref, on a des choses qui ne sont pas maintenables. Aujourd'hui, on préfère travailler sur trouver le juste prix, la juste dimension et proposer de la soutenabilité justement sur les services à venir. Et pour ça, on aurait pu le faire en propre, ainsi de suite. On a fait le choix de travailler avec l'ADEME, donc il y a l'ADEME qui rentre aussi dans cette démarche-là. Et d'avoir un Indigo Conseil qui vient apporter son regard, qui va donc apporter ce rapport du vélo public dans lequel on va ventiler.
Est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que le vélo public, donc le vélo en libre service, le vélo à disposition des administrés, je crois qu'on a perdu notre invité, et ben c'est pas grave, ma dernière question, c'était de lui demander si c'était le parent pauvre de la politique vélo gouvernementale, mais peut-être qu'on le retrouvera juste après. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la chronique d'Abel. Abel, aujourd'hui, il a envie de nous parler des dangers que représentent les cyclistes pour les motards. Alors, il y a des frissons garantis. Abel, c'est à toi.
Bonjour. Les cyclistes sont habitués à subir des flots de critiques plus ou moins justifiés. On peut le comprendre, venant par exemple de piétons qui ne sont pas encore, comme dans d'autres pays, habitués à voir de nombreux cyclistes et, ne pratiquant pas ce moyen de locomotion, ressentent parfois de la crainte et de la difficulté par rapport à des comportements et des trajectoires qui leur échappent. Ce sera long et difficile, mais comme on peut le voir à certains endroits, comme dans les rues aux écoles par exemple, les avantages de l'apaisement de l'espace public réuniront de plus en plus celles et ceux qui y ont intérêt. Mais ce ne sera pas un long fleuve tranquille avec tout le monde. Il y a quelques jours, à l'occasion de l'instauration du stationnement payant pour les deux roues motorisées à Paris, BFM Paris-Île-de-France invite une motarde à échanger avec David Béliard, adjoint à la maire de Paris en charge des transports et des mobilités. Elle explique « Rouler en moto, c'est une solution écologique de mobilité ». Rien de bien étonnant à cette affirmation, c'est un des nouveaux refrains de certains motards. La surprise vient ensuite. Cette motarde, qui affirme rouler en grosse moto depuis 35 ans, et n'est donc pas une jeune débutante inconsciente, explique tranquillement. Les vélos ou les trottinettes, c'est un vrai problème pour nous. Usagers tant de la voiture que de la moto, c'est dangereux. Je n'ai jamais été aussi en danger à Paris. Je traduis. Tout allait bien tant qu'il n'y avait que des automobiles et des motos, et la rue n'est devenue dangereuse que depuis qu'on y a ajouté d'autres modes de déplacement, dont les vélos. L'animatrice tente de revenir sur le problème du jour, le paiement du stationnement des deux roues motorisées que deux communes de proche banlieue, Vincennes et Charenton, pratiquent avec des résultats très positifs depuis 4 ans et demi. Ça vous coûterait combien ? Mais la motarde insiste. Je reviens quand même sur la sécurité. Vous dites qu'il n'y a pas de problème, mais moi il m'est arrivé quand même assez fréquemment de manquer d'être percuté par des vélos. C'est un vrai problème. Vous avez bien entendu, elle a failli assez fréquemment être percuté par des vélos. Dans le magasin de porcelaine, l'éléphant se sent en danger et affirme avoir été percuté. D'où vient cette dérive ? Je tente une explication. Dans la publication Association du journal officiel, on en trouve un certain nombre qui comportent « en colère » dans leur titre. Ce sont généralement des groupes de personnes qui se rapprochent à l'occasion d'événements apportant un important bouleversement à leur environnement et la plupart sont éphémères. La FFMC, Fédération française des motards en colère, et ses multiples antennes sont, à ma connaissance, le seul lobby qui garde, sur la longue période, ce terme « en colère ». C'est-à-dire qu'ils ne se regroupent que pour faire part de leur mécontentement. Le monde entier leur est hostile, ose leur faire payer le stationnement de leur engin, comme le font les automobilistes depuis des années, et les vélos les percutent. À lundi prochain, dans Rayon Libre.
Et voilà, c'était Abel Guggenheim. Entre-temps, Baptiste a retrouvé Vincent. Vincent, vous êtes là ?
Oui.
Ouais, c'est les joies du direct. Alors, en fait, j'ai essayé de vous poser une question. Ouais, ça sera ma dernière question. Il va falloir répondre un peu vite. Est-ce que, selon vous, et c'est peut-être l'objet de la naissance de l'AVP, le vélo public, donc le vélo en libre-service, c'est un peu le parent pauvre d'une politique cyclable de nos gouvernements ?
Non, je pense pas. Mais par contre, c'est celui dans lequel on a une transformation du vélo mécanique vers du vélo électrique qui a un réel coût de mettre du vélo électrique sur la voie république. C'est un réel coût et donc ça demande une réflexion, en tout cas un investissement de structuration, de process.
Ouais.
Et c'est là-dessous où est attendue la VP en tout cas.
D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Vincent. On se reverra probablement à droite ou à gauche. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de Rayon Libre. Et puis pour réagir, rebondir quand même sur la chronique d'Abel, le parking vélo, chers motards, chères motardes, le parking vélo à Paris, sachez-le, c'est gratuit et vraiment le vélo, il se peut qu'il soit une solution à votre mobilité. Vous pouvez même essayer le Vélib, vous verrez, ça marche très bien. Entretenu par Vélogique. Regardez aussi du côté des speedbikes si vraiment la vitesse est un point important. Et vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM, auditeur, auditrice. N'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reçoit Steve Chenel, ancien coureur cycliste, chroniqueur vélo sur Eurosport. On l'a eu au téléphone cet été. Bonne semaine à tous.
Rayon Libre.